Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour, je reçois aujourd'hui Pierre Polo, directeur de la maîtrise d'ouvrage groupe I3F. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une grande histoire, I3F. C'est surtout un bailleur intégré dans le paysage de l'Île-de-France et au-delà de l'Île-de-France, je pense, depuis de nombreuses années. Un rapide historique depuis les années 50, 60
Même avant, puisque 3F a été créé, je crois, en 1928.
Ah oui, carrément, j'étais
donc,
vraiment en retard.
Mais c'est vraiment développé, en fait, dans les années 50, après l'appel de l'abbé Pierre, avec la création, donc... du 1% logement, hein, puisque 3F, c'est une filiale d'Action Logement qui regroupe en fait sur l'ensemble du territoire français environ 1 million de logements. Et le groupe 3F est l'entité, je dirais, nationale d'Action Logement qui exerce sur tout le territoire français.
Alors, aujourd'hui, le point d'ancrage, je dirais, de cette interview, c'est la qualité architecturale. Et je sais que vous y êtes extrêmement attaché, et je trouve que c'est extrêmement important aujourd'hui, parce que évidemment on est à une croisée des chemins entre l'ancien chemin de grue des années 50 et le hors-site des années 2020, 2030, 2050, j'en passe, et la qualité architecturale est quand même au cœur des préoccupations aujourd'hui.
Oui, pour un bailleur en particulier, hein, puisqu'un bailleur à la fois construit des logements, mais il les gère dans le long terme.
Donc, c'est ça, qui dit qualité dit aussi pérennité.
Qui dit pérennité dit bon
valeur
entretien,
d'usage.
Valeur d'usage, etc. Donc c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, c'est au cœur du métier de bailleur social, hein, qui de tout temps s'est beaucoup préoccupé de la qualité de vie pour ses locataires, de la qualité de service également, et puis de la réflexion sur l'économie des charges et donc, d'une certaine façon, le développement durable, puisque c'est à la fois des économies d'énergie et aujourd'hui...
Bien sûr, surtout aujourd'hui, avec ce qui se passe.
Absolument. Et donc, au-delà de l'énergie aujourd'hui, on le voit avec la nouvelle réglementation environnementale, c'est aussi la réduction du carbone et donc une réflexion sur aussi des modes de construire qui seront sans doute différents.
C'est ça. Alors, on a commencé dans les années 50 avec le chemin de grue. Qui dit chemin de grue dit standardisation. On revient à la standardisation quelque part, pas tout à fait la même chose, bien évidemment, après quelques années. Alors, cette histoire d'I3F, avec donc les bars, les tours, et puis d'autres groupes, d'autres bailleurs sociaux, bien évidemment, qui aujourd'hui a été reconsidérée, revue dans les opérations NPRU et toute la reconfiguration de ces objets urbains dans la ville, avec son insertion dans la ville. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut considérer que ces objets, ces grandes cités, s'intègrent dans la ville?
Aujourd'hui, c'est effectivement un sujet important avec le plan de renouvellement urbain qui avait été lancé donc, par Borloo dans les années 2000, a mis en évidence avec effectivement des dysfonctionnements dans certains sites et d'autres sites, des fonctionnements, je dirais, qui aujourd'hui perdurent. Même si l'architecture peut être obsolète sur le plan technique ou sur le plan esthétique. Donc je pense que chaque quartier génère ou pas des dysfonctionnements. C'est en fonction de plein de critères qui sont l'emploi, les transports, les critères sociaux, etc. Donc la réponse à l'après-guerre de reconstruire la France à la fois et de loger ensuite...
Le plus grand nombre, parce qu'il y avait le baby-boom, il y avait effectivement...
Il y a eu le baby-boom, il y a eu les vagues d'immigration, il y a eu le retour aussi des Français d'Algérie, plus l'immigration pour reconstruire la France, qui a conduit à faire des grands ensembles, qui ont été extrêmement bien vécus, il faut toujours se souvenir de ça, quand ils ont été réalisés,
bien sûr.
Ils répondaient à un vrai besoin... qui se sont paupérisés par la suite. Et aujourd'hui, le sujet, c'est à la fois un sujet, certes, urbain, mais c'est aussi un sujet social, et donc de reconfigurer ces grandes emprises.
Alors, les bailleurs ne peuvent pas répondre, et le groupe I3F, comme les autres, ne peut pas répondre à toutes les problématiques sociales et économiques, mais le rôle, quand même, du bailleur aujourd'hui, de ces grands ensembles, puisque aujourd'hui, ils sont malmenés, triturés, rebouclés, reconfigurés de telle manière qu'ils sont en prise avec la ville, mais aujourd'hui, des intervenants extérieurs, hein, puisqu'il y avait le précaré du bailleur, mais aujourd'hui, il y a quand même des reconfigurations qui font que des promoteurs, des aménageurs extérieurs, différentes entités viennent coaguler et faire quartier. Est-ce qu'on fait quartier aujourd'hui dans ces...
C'est ce qu'on essaie de, oui, c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs avec les partenaires que vous venez de citer. C'est-à-dire que notre premier partenaire, c'est la commune, c'est le
la
maire.
La ville, bien sûr.
C'est, donc vous connaissez ça très bien. Et on travaille toujours avec, d'abord avec le maire. On travaille avec les services de l'État, évidemment, qui apportent aussi toute une ingénierie et aussi des finances pour requalifier ces quartiers. Et on travaille aussi avec tous les partenaires, que sont évidemment les architectes, les bureaux d'études et les promoteurs, quand on travaille en mixité avec eux sur certains territoires.
Dans la concertation, puisque aujourd'hui...
Effectivement, je pense que le mot concertation a été un peu malmené. C'est-à-dire que la concertation a été, dans les années 90, c'était plus de l'information que de la concertation. Ça s'est progressivement, à travers des textes de loi, construit avec une concertation quand même plus solide. Mais aujourd'hui, en fait, les gens demandent d'être associés vraiment à la conception des projets, beaucoup plus qu'avant.
Compris sur les projets de renouvellement urbain ?
Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra plus faire un projet de renouvellement urbain comme on le faisait il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on va associer, et c'est une demande forte des collectivités locales, associer les habitants, les futurs habitants, les commerçants, tous les gens qui interagissent sur ces nouveaux quartiers.
Alors comment fait-on pour réintroduire de l'économie ? Parce que effectivement, se dire que on refait le quartier, les habitants se réapproprient aussi les espaces extérieurs, parce que la problématique des espaces extérieurs est devenue, on va dire, au cœur des cités et des espaces urbains denses, dans la mesure où effectivement, avec la Covid et puis un certain nombre de choses, on a besoin de respirer. Comment fait-on du coup pour faire la péréquation entre l'économie, la respiration, le bien vivre ensemble, et puis effectivement cette problématique du travail.
Alors, on décrète pas évidemment le travail. Le travail, il n'est pas forcément
au
pied de son bâtiment. L'économie non plus, par conséquent. Donc, je crois que les maires sont toujours aussi attentifs dans beaucoup de sujets de renouvellement urbain. Si on prend les secteurs de Clichy ou de Montfermeil, l'élément essentiel,
emblématique,
c'était de faire venir les transports. Puisqu'on était à 17-18 km de Paris, donc pas loin géographiquement, mais très loin en termes de transport. Et donc, ça a été le gros sujet, par exemple, du secteur de Clichy-Montfermeil, sur lequel nous sommes énormément intervenus, et on intervient encore sur le secteur du Chêne Pointu, pour justement retrouver une dynamique à la fois économique, commerciale, une attractivité du territoire, qui était liée au manque, finalement, souvent de transport. Donc, c'est un enjeu essentiel pour que l'économie redémarre.
Alors, qui dit transport dit aussi circulation douce, dit effectivement le mieux vivre ensemble. Alors, sur les opérations de renouvellement urbain, on a un sentiment d'optimisme par rapport à ce qui se passe.
Oui, je crois qu'on a beaucoup fait quand même ces dernières années en termes de renouvellement urbain. On a été amené à démolir aussi pour des raisons qui sont des raisons aussi urbaines. C'est-à-dire que
Maillage.
Voilà, c'est exactement ça, du voirie, du maillage, c'est redonner une adresse à l'immeuble, rendre l'adresse moins anonyme qu'elle n'était à travers une grande résidence, c'est retraiter les espaces extérieurs, c'est amener de la mixité, parce que souvent ces grandes emprises étaient monofonctionnelles, avec du logement social uniquement, quelques commerces éventuellement. Et donc aujourd'hui, c'est amener la mixité à la fois sur le plan résidentiel, c'est-à-dire avec du logement libre, du logement intermédiaire, et puis de la morphologie.
Mais vous avez aussi ces possibilités aujourd'hui, puisque le groupe 3F, et on va discuter plus en amont sur la qualité architecturale vraiment des bâtiments, mais peut-être plutôt des bâtiments neufs, le groupe 3F aujourd'hui a cette possibilité de faire de l'accession sociale, de la mixité, alors que ce n'était pas le cas pendant des années.
Alors,
qu'est-ce qui a changé ?
Il y a toute une histoire, mais fut un temps, le groupe 3F a fait de l'accession sociale jusque dans les années, je dirais, jusqu'au fin des années 70. Et puis, il y a eu la crise des années 70 qui a fait que les bailleurs sociaux ont réduit leur production d'accession sociale. Et puis, on a redémarré l'accession sociale, je dirais, à travers notamment nous, pour le groupe 3F, à travers le renouvellement urbain. Pour réintroduire de la mixité et favoriser le parcours résidentiel. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des produits qui sont extrêmement variés, qui vont effectivement du logement locatif social jusqu'à l'accession sociale à la propriété, en passant par le logement libre, le logement pas libre, puisque nous ne faisons pas du logement libre, mais du logement PLI.
Et vous faites des résidences ?
Et on fait également des résidences thématiques, que ce soit la résidence étudiante, la résidence sociale, effectivement.
Alors, c'est un panel assez important. Sans revenir sur les problématiques urbaines dans lesquelles vous vous insérez, c'est vrai aujourd'hui, et on parlera peut-être dans une deuxième interview de la qualité architecturale, surtout des bâtiments neufs, mais aujourd'hui, avec les exaspérations qui sont réelles, à la fois de certains élus, hein, et je mets évidemment des parenthèses, et certains habitants sur le construire ou ne pas construire, hein, puisqu'il y a cette dualité, on va dire. Comment fait-on pour pouvoir tout de même faire la ville, construire et répondre aux attentes des habitants ?
Ben, ça part la confiance à mettre en place avec les territoires, avec les collectivités, les élus, pour créer un terrain propice justement à la concertation et qui permettent effectivement de convaincre, à travers un travail de conviction avec les collectivités, pour leur dire qu'effectivement, il est important de renouveler le parc, de le modifier, de reconstruire, de densifier éventuellement pour refaire la ville. Je dirais que la qualité urbaine est la première des choses à trouver pour faire ville et faire ensemble.
Merci, merci chers auditeurs, merci Pierre Polo et à bientôt.
À bientôt.
Sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil.